الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تبارك وتعالى أديد القرآن الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Dans le sens des versets, si vous vous éloignez des grands péchés que nous vous avons interdits, nous vous effacerons vos fautes et vous ferons entrer dans une demeure honorable. Donc Allah Ta'ala, par ce texte, a promis aux croyants que s'ils s'éloignent des grands péchés, il va leur effacer leurs petits péchés et les faire entrer au paradis. Donc dans la même lignée de ce qu'on a cité avant l'Asr, Hudhayfa ibn al-Yaman a dit: tout le monde demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je demandais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à tous ceux qui délaissent les grands péchés de leur pardonner leurs petits péchés et de les faire entrer au paradis. Si on a su cela, alors la question qui se pose directement après: quels sont les grands péchés? Les grands péchés, quand il a été demandé à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, est-ce que les grands péchés sont au nombre de 7? Il a dit: ils sont plus proches de 70 que de 7. Ils sont plus proches de 70 que de 7. Mais sache une chose: aucun grand péché ne reste après une demande de pardon. C'est-à-dire qu'après avoir fait tawbah, être repenti, avoir demandé pardon à Allah, ce grand péché est effacé. Donc, aucun grand péché ne reste après une demande de pardon. Et aucun petit péché ne reste petit quand la personne l'a fait constamment. C'est-à-dire qu'un petit péché, si la personne elle l'a fait constamment, elle se transforme en grand péché. Donc la règle qu'il a donnée, Abdullah ibn Abbas, que les grands péchés, ils ne sont pas 7 seulement. Ils sont plus proches de 70 que de 7. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Il y en a pas mal. Deuxièmement, n'importe quel péché, même un grand, si la personne, même le plus grand des péchés, si la personne demande pardon et s'en repent en ce monde avant la mort, Allah lui pardonne. Troisièmement, les petits péchés, quand ils sont faits constamment, se transforment en grands péchés. Donc, on apprend par cela qu'il y a une classification dans les péchés. Les grands péchés et les petits péchés. Et même dans les grands péchés, il y a une classification entre eux. Il y en a des plus graves, il y en a des moins graves. Et en réalité, le croyant, il ne regarde pas la taille du péché ou la grandeur du péché, mais il regarde la grandeur de celui à qui il va désobéir. Et de là, il va se rendre compte du danger dans lequel il se met. Connaître les grands péchés, cela permet de s'en écarter, d'en avoir peur et de s'en éloigner. Et cela n'est pas pour choisir et trier quel péché on va se permettre de faire et quel péché on ne va pas se permettre de faire. Dans les grands péchés, il y a plusieurs versets et hadiths qui les dénombrent et qui les citent. Mais comment on les reconnaît? On les reconnaît car ils sont ces grandes actions pour lesquelles il y a une peine légiférée en islam pour ce péché dans ce bas monde. Ça, c'est un grand péché, comme la fornication, comme le vol, etc. Donc, première chose, un péché pour lequel Allah a déterminé une peine dans ce monde, c'est un grand péché. Ou bien, un péché pour lequel il y a une mise en garde dans l'au-delà. C'est un grand péché. Une mise en garde, comme par exemple d'un châtiment ou de la colère d'Allah, ou un péché pour lequel Allah Ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont maudit celui qui le fait. C'est un grand péché. Donc comment on connaît un grand péché? Un péché pour lequel il y a une peine légale dans ce monde. Un péché pour lequel il y a une mise en garde de la colère ou d'un châtiment d'Allah dans l'au-delà. Ou un péché pour lequel Allah a maudit celui qui le fait par la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand des grands péchés, comme il a été cité dans le Coran et dans la Sunna, c'est le polythéisme, le shirk. Le fait de donner à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7 péchés pernicieux. Il a été dit au messager d'Allah, quels sont-ils? Il a dit: donner un associé à Allah, la sorcellerie, tuer une âme innocente sans droit, manger l'argent de l'orphelin, manger le prêt usuraire, s'enfuir au moment de la bataille et accuser à tort les femmes chastes, croyantes, insouciantes. Le polythéisme, le shirk, Allah Ta'ala l'a qualifié de zulm, d'injustice. C'est une injustice envers Allah. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu donnes un associé à Allah, un égal à Allah alors qu'il t'a créé. C'est-à-dire Allah il t'a créé, toi tu adores autre que lui. Est-ce que ça c'est pas la pire des injustices? Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, que Luqman il a dit à son fils, inna shirka la zulmun azim. C'est de l'injustice envers Allah. C'est de l'injustice envers le droit d'Allah. Le devoir du serviteur envers Allah Ta'ala. Le shirk, il a plusieurs méfaits. Premier méfait, que ce shirk soit grand ou petit, il annule l'acte. S'il est grand, il annule tous les actes que la personne a pu faire auparavant. Si c'est un petit polythéisme comme l'ostentation, alors il annule l'acte dans lequel il a eu de l'ostentation. Allah Ta'ala a dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Ta'ala met en garde son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des muwahhidin, l'imam des monothéistes, qui est loin du shirk, car il a mis en garde contre le shirk, il a appelé au tawhid. Il lui a dit: il t'a été révélé au Muhammad, à toi ainsi qu'à ceux avant toi, c'est-à-dire les prophètes avant lui. Si tu donnais quelconque associé à Allah, tes œuvres seraient annulées et tu serais parmi les perdants. Si Allah Ta'ala a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cela, alors qu'allons-nous dire de toute personne qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc le shirk, c'est une injustice énorme. Le shirk, il annule toutes les œuvres, le shirk al-akbar. Le shirk, il n'est pas pardonné dans l'au-delà. Celui qui meurt avec du shirk, qui ne s'est pas repenti dans ce monde du shirk, du polythéisme, il arrivera demain devant Allah et Allah ne lui pardonnera pas. Car Allah Ta'ala a dit: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dessous de ça à qui il veut. C'est-à-dire les grands péchés qui ne rentrent pas dans le shirk ou dans le kufr, ils sont tahta al-mashi'a, les grands et les petits péchés, ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le punira pour cela. Si Allah veut, il lui pardonnera. Mais le shirk, non. Allah ne lui pardonnera pas. Donc le shirk est une injustice énorme. Le shirk annule toutes les œuvres. Le shirk n'est pas pardonné dans l'au-delà. Le shirk est la cause d'être privé de l'entrée au paradis. Car Allah Ta'ala a dit « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. » Certes, celui qui donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa demeure est le feu. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Donc, le shirk est la cause d'être privé de l'entrée au paradis. Et le shirk est la cause de rester éternellement sans fin en enfer. Vous avez vu la gravité du shirk ? Qu'est-ce que c'est le shirk ? Le shirk, c'est le fait d'attribuer ou de diriger pour autre qu'Allah ce qui ne revient qu'à Allah. Attribuer, par exemple, une caractéristique divine à autre qu'Allah. Attribuer des attributs de la seigneurie à une créature en dehors d'Allah. Ou bien diriger une œuvre pour autre qu'Allah, une œuvre, un acte d'adoration qui doit être voué que pour Allah. Par exemple, nous on a dit le Seigneur et Maître de l'univers c'est Allah, le Créateur, le Maître et le dirigeant de l'univers. C'est lui qui dirige l'univers. C'est lui qui décide qui entre au paradis, qui entre en enfer, n'est-ce pas ? Si maintenant quelqu'un vient et dit le prophète d'Allah, il peut rentrer qui il veut au paradis et qui il veut en enfer. Qu'est-ce qu'il aura fait en disant ça ? Répondez-moi. Shirk. Il aura mis le prophète au niveau d'Allah. Si quelqu'un vient et dit le cheikh de tel tariqa, c'est un grand saint, il peut rentrer qui il veut au paradis, il peut rentrer qui il veut en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un associé à Allah. Il a considéré que cette créature, elle est capable de faire ce que Allah seul est capable de faire. Et ça, vous trouvez ça dans leurs livres, des chouyours, des tariqas soufiyas, qui disent, c'est comme si les portes du paradis et l'enfer, elles étaient devant moi, je peux ouvrir celles que je veux et faire entrer qui je veux dedans. Celui qui vient me visiter, je le ferai entrer au paradis. Cette personne qui dit ça, c'est un tarout, c'est un shaitan, c'est un diable. Et ceux qui croient en cette parole, c'est des mouchriquins. Car ils ont attribué à cette créature faible, insignifiante, un droit qui appartient à Allah seul. Un autre qui dit, si ce n'était la peur, je vous aurais dit tout ce qui se passera demain. Ça veut dire quoi ça ? C'est la connaissance de quoi ? De l'invisible. Allah Ta'ala dit « قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ » Dit « Personne ne connaît dans les cieux et dans la terre l'invisible à part Allah. » Ça, c'est du Coran. Allah Ta'ala dit à son prophète, dans le Coran, le meilleur des hommes, l'imam des prophètes, le meilleur des hommes. Il dit, « لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ » Si je connaissais l'invisible, j'aurais accumulé le bien
et le mal ne m'aurait jamais touché. La connaissance de l'invisible est propre à Allah. Tout homme, même tout djinn qui prétend connaître l'invisible, c'est un tarout, un shaytan qui s'est pris pour une divinité en dehors d'Allah. Et celui qui accorde crédit à ce qu'il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il a mécru dans la révélation qui est descendue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith authentique. Les djinns, ils ne connaissent pas l'invisible. Dans le Coran, Allah Ta'ala parle de ça, que Suleyman alayhi salam, Allah lui avait donné spécifiquement à lui le pouvoir d'ordonner les djinns. Ils étaient à son service. Ils travaillent pour Suleyman alayhi salam. Dans le bien, bien sûr. Il leur fait faire des travaux, etc. parce qu'ils ont de la force, ils sont rapides. Il ne leur fait pas faire comme les sorciers du mal. Mais ça, c'est spécifique à Suleyman alayhi salam. Car Suleyman, il a fait une dua que Allah lui donne une royauté qui ne donnera à personne d'autre après lui. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba, ils avaient attrapé un djinn, ils l'ont attaché au poteau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, laissez-le, car ceci est spécifique à mon frère Suleyman. On ne peut pas, nous, on n'a pas le droit d'utiliser un djinn, même dans le bien. Même dans le bien. Donc, dans le Coran, Allah Ta'ala nous raconte que quand Suleyman alayhi salam, il est mort, il était assis sur son trône avec un bâton. Et il est mort comme ça, assis, alayhi salam. Et les djinns, ils avaient peur de Suleyman. Ils étaient à son ordre. Ils travaillaient dur. Ils étaient fatigués. Et ils croyaient que Suleyman, il dormait. Donc, ils ont continué, ils continuent à travailler. Jusqu'à ce que les mythes, elles aient mangé le bâton et que le bâton tombe en poussière et il est tombé mort. Ils ont vu qu'il était mort. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran que ceci a éclairé que si les djinns connaissaient l'invisible, ils ne seraient pas restés dans ce châtiment douloureux de travailler comme ça autant de temps. Donc, ça prouve que les djinns, ils ne connaissent pas l'invisible. Donc personne ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Celui qui attribue cette qualité à autre qu'Allah, il a donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les gens qui vont voir les astrologues, les devins, il y a une coutume là, quand ils se marient, ils vont ramener à manger à quelqu'un, il lui dit est-ce que cette femme et cette famille, elle est bien pour lui. Qu'est-ce qu'il connaît lui? Il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il va faire dans une heure. Il ne sait même pas dans une heure qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est lui qui va te dire est-ce que cette famille elle est bien pour toi ou non. Donc regardez comment le shirk il s'est introduit dans la communauté musulmane avec les tariqas soufis, avec les groupes et les sectes soufis qui ont pris des croyances volées aux hindous, aux bouddhistes, aux adorateurs des statues et des tombes et les ont habillés avec un habit d'islam. Parmi les différentes manières de shirk qui sont répandues, l'adoration des tombes, le fait de tourner autour des tombes, le fait d'invoquer les morts, le fait d'invoquer les esprits en dehors d'Allah. Alors, qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit Ud'ouni astajib lakum. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Il a appelé la dua « ibada ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « الدُّعَا هُوَ الْعِبَادَ ». La dua, c'est l'adoration même. Donc faire dua, invoquer autre qu'Allah, c'est adorer autre qu'Allah. De même sacrifier. Le fait de sacrifier une bête. Allah Ta'ala, il dit quoi? Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. Pour l'Eid, comme certains mufassirines, ils ont dit. Qui est bientôt, Inch'Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Dis, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, appartiennent à Allah, Seigneur et Maître des mondes. Donc sacrifier, quand on rentre dans une maison pour se protéger des djinns, c'est du shirk, car il a sacrifié pour un djinn. Il l'a sacrifié pour le djinn, pour que le djinn ne l'embête pas. Il a sacrifié pour autre qu'Allah. Sacrifier pour un mort, pour un saint, pour un wali, pour... c'est du shirk. Sacrifier pour un sorcier que tu vas voir, il va te dire si tu veux être guéri, si tu veux être tranquille, va sacrifier telle bête ou telle bête. C'est du shirk. Car il a fait tous ses sacrifices pour autre qu'Allah. Il a fait ses sacrifices pour agrandir le nom d'autre qu'Allah. Pour plaire et satisfaire autre qu'Allah. Alors, il a pris en cela un associé à Allah. Et une divinité en dehors d'Allah. Alors, il est un adorateur de cette personne. Sha'a ou aba. Qu'il le veuille ou non, c'est ça la réalité en islam. Parmi les adorations qui doivent être vouées à Allah seul, il y a l'amour. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, ils les aiment comme on aime Allah, alors que les croyants aiment encore plus fort Allah. Donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit que celui qui aime une créature, quelle qu'elle soit, ou une chose, autant ou plus qu'Allah, il aura donné un associé à Allah. Cet amour qui est du shirk, c'est l'amour qui est lié avec de la vénération ou du respect. On ne parle pas de l'amour naturel. Quelqu'un, il aime naturellement ses parents, il aime naturellement ses amis, il aime naturellement ses enfants. Nous, on parle de l'amour qui dépasse la limite et qui est lié avec une vénération, un respect qui fait que cette personne, elle l'aime comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala ou plus qu'Allah. Et malheureusement, subhanallah, cette chose, elle est répandue. Nasallahu alayhi wa sallam. Donc ce grand péché-là, qui est le plus grand des péchés, si le musulman il s'en éloigne, déjà il a laissé le plus grand des grands péchés. Et il a la garantie que s'il concrétise dans sa vie le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura le droit au pardon d'Allah et à ses faveurs et aux nombreuses vertus que l'Ustad Abu Asim vous a citées dans les cours tout à l'heure, les vertus du tawhid. Mais ceci n'est que pour celui qui se préserve du shirk. Car le shirk, il vient annuler le tawhid comme quelqu'un qui fait ses besoins, cela annule ses ablutions. Est-ce que quelqu'un qui a été aux toilettes faire ses besoins, il peut se lever et faire salat comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il a annulé ses ablutions. De même, le shirk, il vient annuler l'islam et le tawhid de la personne. Donc vous voyez son danger. Si quelqu'un, il fait un acte qui annule son islam, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu mushrik kafir, il n'est plus musulman. On ne peut pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans, on ne prie pas sur lui, il ira en enfer éternel. Vous imaginez, c'est grave. C'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'apprendre le tawhid et son contraire. D'apprendre le tawhid pour le mettre en pratique et d'apprendre le shirk pour le délaisser, s'en éloigner et mettre en garde contre lui. Même si ça doit te coûter des problèmes, même si tout le monde te fait la guerre, tu dois mettre en garde contre le shirk ta famille, tes proches, tes amis. Tu ne dois pas accepter de voir qu'on donne un associé à Allah. au moins tu dois les prévenir. S'ils ne t'écoutent pas, tu auras fait ton devoir. Tu patientes sur leur mal, même s'ils t'attaquent, même s'ils t'insultent, même s'ils se mettent tous contre toi. Sois sur la vérité, même si tu es seul. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.